il y a cette idée qu'en fait, la prière serait un problème psychologique. Elle vient régler un problème psychologique. Par exemple, l'amertume que l'on ressent par rapport à ce qui nous manque. Par exemple, vous avez quelqu'un et dit voilà, ben, j'ai pas d'argent, ou j'ai pas d'enfant, ou bien je n'ai pas de santé. Alors, c'est extrêmement frustrant tout ça. Il y a une amertume qui se développe, un sentiment de manque. Et quand on prie pour ces choses-là, en fait, on a le sentiment d'être devant Dieu. Mais en vérité, ce n'est pas devant Dieu que l'on est, on est devant son problème. Ou bien il y a une autre critique qui consiste à dire que celui qui fait la prière, en fait, vient régler un sentiment de culpabilité qu'il a par rapport à une faute, par rapport à un péché. Et il vient en fait combler son sentiment de culpabilité. Il y a une autre critique qui consiste à dire la prière, c'est une expérience esthétique. C'est très beau la prière. C'est splendide. Surtout par exemple dans les cultes chrétiens, on voit ça souvent. Il y a une insistance énorme sur le côté cérémonial. Oui. Exactement. Ça peut être donc un happening aussi, des trucs comme ça. Mais en tout cas, il y a une expérience esthétique. Mais en fait, une expérience esthétique, il y a l'art. On n'a pas besoin forcément de penser qu'on est devant Dieu, etc. Certains vous diront que non, l'expérience religieuse ou l'expérience de la prière, c'est l'art. Certains, oui, bon, ça on a déjà dit. Mais je vais pas situer à une autre critique qui consiste à dire que ça serait une terreur. On est terrorisé par rapport, on a un tremblement par rapport à la transcendance, etc. Alors il faudrait voir effectivement qu'est-ce que c'est que la tefila et qu'est-ce que nos chachamim ont à nous dire là-dessus. Et bien c'est pour ça que je vous propose d'étudier ensemble un texte de Maseret Brachot que vous avez devant les yeux, vous ouvrez à la page Lamed Amud Bet. C'est la première Mishnah du chapitre Tefillat HaShachar. De En Omdin, pardon. Lamed Amud Bet, ça vous donne dans les éditions habituelles écrit 60 en haut. Hein, vous avez trouvé? Alors vous avez un texte qui commence par le mot Ein, en gros. Vous y êtes? Ein. Bon. En omdin leitpalel elam itor koved rosh. On ne se lève pour prier qu'avec la lourdeur de tête. J'ai traduit mot à mot. Qu'à partir d'une lourdeur de tête. Être un peu lourd. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais ce qui m'intéresse d'abord, c'est les deux premiers mots. En omdin. Non, en omdin, ça ne veut pas dire n'oublie pas, c'est-à-dire on ne se lève pas. D'abord, la prière est supposée être faite debout. Omdin. C'est-à-dire, et on ne se lève pour faire la prière que si telle et telle condition sont remplies. Alors, c'est écrit lourdeur de tête, je ne sais pas ce que ça veut dire pour l'instant. Mais c'est intéressant de voir que un texte qui vient nous dire, qui vient nous parler des règles de la prière, nous dit quand est-ce que la prière est interdite. En omdin. On ne se lève pas. C'est-à-dire qu'il y a une interdiction. On n'a pas le droit de faire la prière si on n'a pas réuni telle et telle condition. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de penser, mais depuis la semaine dernière on pense déjà autrement, qu'on pensait que la prière était une obligation. Au contraire, on voit ici que la prière est un privilège. C'est vrai qu'il y a une obligation d'être en état d'être dans le privilège. C'est-à-dire, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, j'ai le devoir d'entrer en condition pour pouvoir faire la prière. Mais tant que je ne suis pas rentré dans la condition nécessaire, je n'ai pas le droit non plus de faire la prière. La prière est interdite, elle est fermée. Bon, on peut comprendre, d'après ce qu'on a vu la semaine dernière, que tant qu'on n'est pas prophète, la prière devrait être interdite. Alors, comme nous ne sommes pas des prophètes, donc on a un petit problème. Comment? Hein? Voilà, déjà, pas de prophète, pas de prophétie, pas de prière, interdite. Bon, pourtant, on l'a fait quand même. Mais il y a des conditions. La condition qui me permet justement de savoir que je suis en similitude avec l'expérience des prophètes. Quelque chose qui ressemble. Alors, comment faire pour pouvoir prier? Alors, en omdim leitpalel, on ne s'élève pas pour la prière. Et là, mitor koved rosh. D'abord, cette histoire de mettre debout, ça m'intéresse. On voit que c'est central. La prière se fait debout. Est-ce que vous connaissez une autre situation dans la vie où on doit être debout? Hein? Au tribunal. Oui? Accusé, levez-vous. C'est-à-dire, le jugement demande d'être debout. Au moment du mariage, personne n'en peut. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, mais le mariage, c'est aussi une façon d'être jugé. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui fait que... Non. C'est-à-dire, on va changer d'état, n'est-ce pas? De célibataire à marié. Alors, ça veut dire que quelque chose doit être jugé dans la personne. Et donc, le jugement, c'est le moment d'être debout. On est en pleine stature. Et d'ailleurs, en hébreu, le mot « prier » se dit comment ? Leitpalel, ça veut dire « se mettre en jugement ». Ce qui est judiciaire se dit en hébreu « plili ». Pelili, plilim. Donc, leitpalel, ça veut dire « se mettre en état de jugement ». Et vous savez qu'on demande quelque chose dans la prière. Dans la prière, je viens demander. Je dis « Ribono shel olam, j'aimerais bien avoir un sandwich au thon » sans mayonnaise et avec de la laitue. Voilà. Je viens donc devant le monde, j'aime bien, je voudrais un sandwich. Comment? Et alors, le problème, c'est que la question se pose, les anges disent, bon, votre cas est soumis, mais il faut juger, savoir si vous méritez ou pas. Peut-être que je mérite le sandwich, peut-être que je ne mérite pas. Peut-être que je mérite, mais avec mayonnaise. Ça se discute. C'est-à-dire, le fait même de demander quelque chose me met en état de jugement. Un tribunal, selon la halakha, est composé de combien de personnes? Trois personnes. Trois personnes, n'est-ce pas, dans un tribunal? C'est pour ça que quand on quitte le tribunal de la prière, Rosé Shalom Ibromav, Yate Shalom Aleinu, Balkol Israël, n'est-ce pas, on se présente, on se prosterne devant les trois éléments du tribunal, le juge qui est entièrement bonté, le juge qui est entièrement rigueur et le président du tribunal qui réunit les deux. N'est-ce pas? Et c'est devant ce tribunal que je présente ma requête. Donc je me mets en état de jugement. Quand je suis condamné à mort, c'est pour mon bien. Évidemment, on ne condamne pas pour stam comme ça. Quel est le problème? Être jugé, c'est une bonne chose. C'est-à-dire, il faut savoir que il vaut mieux être jugé que d'être dans l'indifférence. Imaginez quelqu'un à qui Akadosh Baruch Hu dit « Fais ce que tu veux, je m'en fiche pas mal. » C'est terrible. C'est terrible, parce que ça veut dire que ma vie n'a pas de sens. Je peux faire le bien, je peux faire le mal. De toute façon, ça n'a aucun sens. Terrible. Être jugé, ça veut dire que je suis important. On pense qu'il faut me juger. Et même si le résultat sera « quick », en tout cas, ce résultat prouve que ma vie a une importance. C'est le maître du monde qui a décidé de me juger. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est pas n'importe qui a ce mérite. Donc, heureux sont les condamnés à mort par un tribunal juste. Non, c'est vrai, hein, je rigole pas du tout. Ouais. Donc, en omdin, lehit palel, on ne se lève pour être jugé, en fait. Lehit palel. Mais il faut être sûr que je suis devant le tribunal. Peut-être que je me fais des idées. Qu'on a dit tout à l'heure, les critiques de la religion qui disent « Oui, c'est n'importe quoi, vous avez des problèmes psychologiques et au lieu d'aller payer 300 shekels chez un psychologue par séance, alors vous faites la prière. » C'est vrai que ça coûte moins cher. C'est journalier, quand même. Comment? C'est plus pratique. Ouais. Mais enfin, pas besoin de dire qu'on est... Hein? Pas besoin de se déplacer. Même si on fait trois pas, quand même. Trois pas. D'ailleurs, c'est le moment de rectifier une erreur. Beaucoup pensent qu'il faut faire trois pas en arrière et trois pas en avant. C'est totalement faux. Non, c'est ça. Il faut faire trois pas en avant. C'est tout. Les trois pas en arrière n'existent pas dans la halakha. Les trois pas en arrière, c'est pour des raisons pratiques. C'est pour pouvoir avoir de la place. C'est tout. Quoi? Dans le Shulchan Aruch, il n'y a pas écrit qu'on fait trois pas en arrière. Comment ça? Avec le rapport partout, je vous avais vu qu'il faut faire trois pas dans le kishur. Qu'il faut faire trois pas en arrière? Non, les trois pas en arrière, c'est quand on finit la Amida. Comment? Trois pas en arrière? Et non, ça n'existe pas. Montrez-moi ça.
Ah, j'ai avec vous.
C'est pas Amida, ça n'existe pas. Moi, je ne les fais pas. Comment? Il faut avoir de la place. Alors, oui, mais si vous êtes par exemple, en plein désert, hein, il y a pas de table, il y a rien. Qu'est-ce qu'on fait? Trois pas en avant, c'est tout. Bon.
C'est juste pour la fin de l'Amida, les trois pas en arrière.
Et pour la fin, oui, pour l'Amida, on fait trois pas en arrière, c'est tout. Voilà. Et après, on revient trois pas en avant pour se mettre en place pour la Kedusha. N'est-ce pas? Bon. Donc, énorme dîme les palel. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut être sûr. Je me lève pour être jugé, pour faire la prière. Mais quand il faut que je sache que je suis vraiment arrivé devant le tribunal, que je ne suis pas trompé. Alors, imaginez, le type, il pense qu'il est au tribunal. En fait, il est dans la queue au supermarché. Il s'est planté. Voilà. Bon, alors, comment savoir qu'on est devant le tribunal? On ne peut le faire qu'avec lourdeur de tête. Alors, c'est quoi la lourdeur de tête? La conscience. Alors, justement, il y a Rachid. Regardez Rachid. Oui, il y a une conscience, évidemment, une conscience. Conscience de quoi? Alors, Rachid nous dit ici, Achna'a. Vous avez vu Rachid? Là, il écrit Koved Roche. Oui, en haut à gauche. Achna'a, soumission. Aha. Pourquoi est-ce qu'il faut de la soumission dans la prière? J'aurais pu penser, moi, par exemple, la joie, par exemple. La joie, c'est bien aussi, non? C'est-à-dire que, non, parce qu'on vient de demander quelque chose. Quand je viens demander, ça veut dire qu'il y a une distance entre ce que je pense être la perfection et ce qui se passe, entre l'idéal et la réalité. Si j'avais par exemple mon sandwich, je ne ferais pas la prière. C'est parce que le sandwich me manque que je fais la prière. Donc, si le sandwich me manque et qu'à cause de ça je fais la prière, donc je suis en état de manque. C'est ça le sentiment que j'ai dans la tefila. Achna. D'accord? Et puis il y a une suite à la Mishnah. Chassidim Arishonim, on nous raconte que les pieux d'avant, Ayu Shoin Shahat Umitpalelim, restaient. Shohe, ça veut dire ils restent. Ils restaient pendant une heure. Et ils priaient. C'est donc d'une heure de préparation. Kede, chez Echavnu, Liba, Amlaviem, chez Bachamaim, afin d'orienter leur cœur vers leur Père qui est aux cieux. Hein? Oui, c'est. Oui. Après, on n'est pas Dieu. Et puis, à part ça, pourquoi ils ont besoin d'une heure? Je ne comprends rien, moi. C'est-à-dire, nous, par exemple, nous faisons la prière. Combien de temps de préparation on met? Oh, bien une seconde écart. Oui, alors on met les tefs. Bon, alors, oui. Mais les chassidim en question, eux, et pour Minra, tu ne mets pas les tefs. Oui. Eux, ça leur prenait une heure. Mais à quoi ils pensaient avant? C'est des chassidim. Alors on peut supposer qu'ils pensaient à Kadosh Baruch Hu tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vas-y, cause, parle sans crainte.
Parce que si vous êtes là, parce que vous dites c'est chassidim, et tout à l'heure, ils pensaient à Kadosh Baruch Hu, ils faisaient des lois, tout ça.
Donc ils n'avaient pas besoin.
Ils allaient sortir de. Il ne faut pas qu'ils soient en questionnement pendant la fila. Il ne faut pas qu'ils réfléchissent à un cas qu'ils avaient avant. Il faut qu'à la fila, ce soit pour la fila.
Donc tu dis que c'est un cas particulier. Ce sont ceux qui sont en plein questionnement. Alors ils ont besoin de s'en sortir. Il faut le prouver, ça. Où c'est marqué? On va voir, c'est pas sûr. Oui. Qui c'est qui a. Ouais. Oui, mais. Mais justement, quelle est la préparation mentale dont ils ont besoin? Si la Mishnah nous dit que ça leur prenait une heure, alors il faut savoir de quoi il s'agit. Oui, mais pourquoi une heure? Oui, mais une heure de Arna, c'est énorme, 60 minutes. Surtout que la Guémara dit qu'à part ça, ils priaient pendant une heure, ils atterrissaient pendant une heure. Ils recommençaient pour Mincha et encore pour Arvit. Ça fait donc 9 heures consacrées par jour à la Tfila. Et puis Shabbat, il y a aussi Moussaf. Hein? Comment? Et quand est-ce qu'ils travaillaient? D'accord? Oui, et quand est-ce qu'ils étudiaient? Il y a le travail et l'étude dans tout ça. D'accord? Question qui est posée par la Guémara par la suite. Oui? sacrifice mon temps. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Oui, mais je peux aussi consacrer du temps pour manger. Pourquoi ça serait un sacrifice plus qu'autre chose? Ah, c'est-à-dire que tu as sacrifié dans le sens commun du terme. Je sacrifiais du temps, c'est-à-dire j'ai consacré du temps. Oui, ça ressemble de ce point de vue-là, mais c'est extrêmement extérieur, c'est d'accord. Bon, donc il y a ici un problème, pourquoi ça leur prend une heure? Continuons. « Afilo ha-melech shoel bishlomo lo yishivenu » Même si le roi lui demande comment ça va, il ne doit pas lui répondre. « Vafilu nahash karuch ha-akevo lo yafsik » Même si un serpent entoure sa cheville, il ne doit pas s'interrompre. Comment? Justement, c'est ce que je me demande. Hein? S'il y a un scorpion, il doit bouger. S'il y a un serpent, il ne bouge pas. Et la différence, c'est que le serpent, quand on bouge, c'est là qu'il devient méchant. D'accord? Hein? Le scorpion est toujours dangereux. Oui. Un taureau? Un taureau qui charge. Pourquoi est-ce qu'il... Quoi? Parce que tu crois... Cette histoire d'habits rouges, c'est totalement faux. Les taureaux ne voient que noir et blanc. Ils ne voient pas les couleurs. Oui, d'accord. Non, ce que je veux dire, que l'histoire du rouge, que le rouge, ça énerve les taureaux, c'est totalement faux. C'est le mouvement, évidemment. Évidemment. Quand le quoi? Quand il y a un taureau? Oui. J'en sais rien, je connais pas.
Comment on peut prier avec un serpent qui se roule autour de la cheville? C'est impossible. On peut pas être concentré sur notre cheville, c'est un serpent qui est en train de
monter. Mais non, au contraire, si on ne bouge pas, le serpent ne fait rien.
On ne bouge pas, mais on ne crie pas non plus.
On peut. Oui, ça dépend. Si on commence, ça sera mieux. Ça. Oui. Non, mais il s'agit d'un serpent qui n'est pas venimeux. Bon. Oui, bon, enfin, voyons la suite. Alors, j'aimerais comprendre donc l'histoire du Kovéd Roche, ça me trouble, parce que le Kovéd Roche est une expérience que l'on vit, en français on dit du sérieux, hein, du sérieux, de la soumission, etc. Mais ça veut dire exactement quoi? Ça, la Mishnah ne nous donne pas de réponse satisfaisante. Et c'est pour ça qu'on a besoin du texte de la Guémara. Donc, je vais lire la Guémara. La Guémara, c'est écrit Gum, qui met le même. Gum. Mina Hanemile. Ce sont des initiales, n'est-ce pas? Ham. On va dire achetez votre. Mina Hanemile. Alors, on a l'habitude de penser que Mina Hanemile, ça veut dire d'où est-ce qu'on sait ces choses-là? C'est effectivement littéralement ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est comme si la Guémara disait, d'où savons-nous qu'il faut prier avec Achna, avec Kovéd Roch? Mais c'est certainement faux. Parce que d'où est-ce que nous savons les halakhot de manière générale? Comment est-ce qu'on sait une halakha? La Guémara, d'où est-ce qu'elle la sait? Et la Mishnah, d'où est-ce qu'elle la sait? Donc c'est quelque chose qui est transmis de manière orale, de génération en génération. Donc, comment est-ce qu'on sait que la halakha, c'est ça et ça? Ben, simplement, ça fait partie de la tradition. Si c'est pas parce qu'on a trouvé un verset que l'on a appris la halakha. La halakha était connue bien avant le verset. N'est-ce pas? Donc, quand la Guémara demande d'où est-ce que nous savons que c'est ça et qu'elle amène un verset, c'est pas parce, ça veut pas dire qu'en vérité, c'est ça la source de ce que nous savons. Nous le savions avant. Mais à quoi sert le verset? À comprendre ce que nous savons. C'est-à-dire, par exemple, il y a un texte dans la Guémara absolument génial sur le fruit qu'il faut prendre à Soukot. La Torah dit, « Ulkartem lachem ayom harishon peri et sadar. » Vous prendrez le premier jour un fruit splendide, le fruit d'un arbre splendide, peri et sadar. Alors la Guémara se gratte la tête, elle demande, « Mais c'est quoi ce fruit-là » Et elle fait des recoupements à n'en plus finir pour arriver à la conclusion qu'il s'agit du hétrog. Le problème, c'est qu'on le savait avant. Qu'est-ce qu'on a pris l'année dernière? On a pris un étrog. Donc nous savons déjà la réponse. Alors pourquoi tous ces versets que la Guémara amène? pour expliquer pourquoi le Etrog. D'accord ? Donc on va voir Mina Hanemile, Amar Rabbi Lazar. Donc on veut comprendre c'est quoi le Kovod Rosh en question. Oui. Ah, parce que le pasouk il a un contenu. Par exemple, la Gemara dit d'où est-ce que nous savons que c'est le Etrog ? Eh bien parce que le mot Hadar en grec veut dire de l'eau, l'hydrologie, n'est-ce pas ? Et alors, comme ça veut dire que c'est un arbre qui pousse sur toute quantité d'eau possible, c'est-à-dire même sur très peu d'eau. Péri et Sadar, gadé al kolmaï. Donc ça veut, donc c'est la raison, c'est, de là nous savons que c'est le Etrog. Convaincant ? Non, ça veut dire que la Torah nous a dit de prendre un Etrog parce qu'il pousse sur un peu d'eau. D'accord ? Et puis après, elle amène un autre verset, que Péri Aetz, c'est que le bois de l'arbre, la branche, et le fruit lui-même ont le même goût. Péri Aetz. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle la Torah nous a dit de prendre un Etrog. Parce que l'arbre et, et le fruit ont le même goût. D'accord ? Et ça correspond à, donc à un monde idéal dans lequel il n'y a pas le moyen et le but, la branche et le fruit. C'est la raison pour laquelle la Torah nous a dit de le faire. C'est-à-dire, on essaie de comprendre ce que veut la Torah. D'accord ? Alors, et la même chose pour le Kovod Rosh. On va ici donner plusieurs réponses qui vont toutes être réfutées. Mais à travers ces réfutations, on va apprendre quelque chose. La Kabbalah fait partie de ça aussi ? Oui, mais la Kabbalah, elle n'est pas en contradiction avec la Gemara. Elle est en allusion dans la Gemara. Quand on étudie bien la Kabbalah, alors quand on relit la Gemara, on voit que c'est écrit là-bas. On voit que tout ce que dit la Kabbalah se trouve déjà dans la Gemara. Simplement, on avait besoin de la Kabbalah pour le savoir. C'est une façon de lecture différente de celui qui n'a pas étudié la Kabbalah. Non, c'est autrement. C'est pas plus rapide, c'est autrement. D'accord ? Mina Hane Mile. D'où savons-nous ces choses-là ? Amar Rabbi Lazar, vous avez une première réponse. De Amar Kra, parce que le texte nous dit, l'écriture nous dit, Vehi Marat Nafesh. Elle était amère dans son âme. De là, nous savons qu'on peut prier, qu'il faut prier à partir du Kovod Rosh. De qui parle ce verset d'abord ? De qui parle ce verset ? De qui ? Pas du tout. Vehi marat nafesh. Elle était amère dans son âme. Qui c'est la prière qui faisait la prière ? C'était Hana. Il s'agit, c'est un verset qui parle de Hana, la mère du prophète Shmuel. Oui, Hana. Eh bien, Hana, elle était amère. Pourquoi est-ce qu'elle était amère ? Elle n'avait pas d'enfant. Et le verset dit, Vi marat nafesh, vatit palel. Elle était amère dans son âme et elle pria. Donc, ça veut dire que pour prier, il faut passer par l'amertume. Oui, alors ça supporte pendant une heure d'amertume. Trois fois par jour. Tous les jours. Terrible. En plus de ça... Oui, alors il y a ici un problème. Non, quand je prie parce qu'il me manque quelque chose. Ben oui, la prière est pour un manque. Et donc, la définition du manque... Oui. Oui, alors il y a ici... il y a une difficulté. C'est-à-dire qu'on suppose... que si, si le texte nous dit que Hana était amère, c'est que donc la condition de la prière, c'est l'amertume. La Gemara va réfuter ça. Mais, sachez une chose, que quand la Gemara réfute une idée, c'est pas que l'idée est fausse. Au contraire, c'est que l'idée est bonne. Mais, elle est réservée à quelques individus. Elle n'est pas pour tout le monde. Parce qu'effectivement, on ne peut pas supposer que la halakha demanderait à chaque homme d'Israël d'avoir son amertume tous les jours. Surtout que si on revient au problème qu'on avait posé la dernière fois de notre étude, comment être bien sûr que cette amertume est justifiée ? Une femme dit je suis malade de ne pas avoir d'enfant. Bon, on peut comprendre. Mais est-ce que ça justifie la prière? Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu pense que c'est mieux qu'elle n'ait pas d'enfant. Donc, prendre son amertume personnelle comme biais de la prière, c'est fini là avec le plastique, comme biais, B-I-A-I-S, moyen, comme moyen de la prière, c'est, ça pose un problème logique. On ne sait pas si on a raison d'être amer. Tu vois? Donc, comment? Contre la volonté d'un jour, peut-être que c'est très bien de ne pas avoir d'enfant, j'en sais rien. Il faut savoir.
C'est très demandé.
De demander, oui, mais si on n'est pas prophète, on ne sait pas. On ne sait pas demander. Si je suis prophète, bon, ou prophétesse, voilà. La prophétesse, elle dit à Kadosh Baruch Hu, je sais sciemment, parce que je suis prophétesse, que ce n'est pas bien que je n'ai pas d'enfant. Alors il y a une amertume du fait qu'elle n'en ait pas, et donc sa prière est justifiée. Effectivement, c'était le cas chez Hana. Hana était prophétesse. Et elle savait que tant qu'elle n'aurait pas d'enfant, il n'y aurait pas de roi en Israël, parce que c'est son fils qui sera le prophète qui va oindre les rois, Shaoul et David. Donc, elle se sent, justifiée d'exiger d'Akadosh Baruch Hu qu'elle ait un enfant. Mais ça, c'est exceptionnel. Il faut être quelqu'un de la dimension de Hana pour que ça marche, et pour savoir que c'est vraiment ça, l'arrière-plan de la prière. D'accord ? Alors, vous allez voir que la Gemara réfute. Elle dit, Mimai, comment tu sais? Dilma, peut-être. Hana Shane, que chez Hana c'est différent. Dehavat Mirira Libatuva, parce qu'elle avait beaucoup d'amertume dans son cœur. C'est-à-dire quoi? Elle avait beaucoup d'amertume dans son cœur, que son amertume était justifiée. Mais toi, le simple priant, tu ne sais pas si ton amertume est justifiée. Tu dis, Ribono Sheolam, fasse que je ne rate pas l'autobus. Mais peut-être que c'est bien que tu rates l'autobus, peut-être qu'il y aura un accident de voiture. Peut-être que c'est bien que tu l'aies raté. Alors comment tu peux savoir? Donc tu ne peux pas te servir de ton amertume comme expérience religieuse qui te permet la prière. Oui? Oui, justement, parce qu'elle savait, puisqu'elle était prophétesse, que tant qu'elle n'aurait pas de fils, eh bien il n'y aurait pas de roi en Israël. Et tant qu'il n'y a pas de roi en Israël, Akadosh Baruch Hu n'est pas appelé éternel des armées, Hashem Tzevaot. D'accord, c'est la Guémara analyse après la prière de Hana dans la suite du texte. Elle explique que c'était ça son problème. Elle était amère contre Akadosh Baruch Hu. Et non, elle ne se sentait pas coupable. Elle dit au contraire. Oui, mais justement, elle sait qu'elle n'a pas de défaut. Elle sait qu'elle a le mérite. Comment? Elle peut prier. Mais justement, mais elle sait. Donc elle sait que c'est la volonté d'Hachem qu'elle prie. Comment? C'est pour ça qu'elle a prié. Elle sait qu'il y a un manque et qu'il n'y a pas de raison de l'empêcher d'avoir la réalisation de son désir. Donc elle comprend qu'il reste une seule chose à faire, c'est la tefila. Et elle fait la tefila et ça marche. Hein? D'accord. Donc, oui, Marat Nafesh. Donc, on dit pour Hana, c'est une très bonne réponse, mais qui n'est valable que pour Hana. C'est-à-dire, c'est la vraie réponse. C'est-à-dire que la prière vient du sentiment d'amertume à cause du manque. Le problème, c'est que nous n'avons pas la capacité d'évaluer le manque, et s'il est véritablement justifié, etc. Et donc, on ne peut pas faire de ça une halakha pour tout Israël. On croit qu'on sait, mais c'est pas toujours. Non, mais c'est parfois naturel, c'est humain. C'est-à-dire, une femme qui n'a pas d'enfant, elle en est triste, c'est normal. Mais est-ce que ça justifie sa prière? C'est ça que ça veut dire.
Mais non, quand elle est prophète,
oui.
Elle est
amère,
ça veut dire
qu'on comprend pas qu'on sait ce que. Ou bien qu'on a une réaction naturelle.
Hein?
Comme dit le Rambam, Mi Yakuv le Yitzhak, qui serait peut-être frappé sans crier. D'accord? Alors, il y a aussi. Elle n'a pas d'enfant, elle en souffre. Oui?
Pourquoi la prière, elle a fait, pourquoi elle prie de façon très expressive comme ça?
Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse?
Hein?
Comment tu...
Une prière, c'est l'amertume, c'est honnête, c'est stoppé à l'amertume, c'est fermé, c'est pas...
Et alors?
Ce qu'elle fait, elle parle pas. Et ben oui, mais pourquoi elle prie de cette manière-là?
De quelle manière? De quelle manière elle a prié?
Elle
a cru qu'elle était saoule. Pourquoi? Parce qu'elle murmurait. Tu vois une femme debout qui murmure. Ben oui. Non, au contraire. Voilà. va cuver ton vin. Bon, alors. Amar Rabbi Yosef ben Hanina. Et là, Amar Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina. Oui, quoi encore? Quoi, qu'Hachem, quoi? Oui, mais il fait passer ça par Hana. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il a un plan. Il veut sa royauté, il veut que ça passe par Hana, il veut qu'elle prie. Oui, mais elle sait que ça passe par elle. Mais elle sait que c'est arrêté. Quelque chose est coincé. Donc elle. Non, elle va prier de toute façon. Et si elle ne prie pas, ben ça sera arrêté. Ça passera, ça va suinter d'un autre côté. Et quand ça suinte, c'est pas sympa. Donc, et là, Amar Rabbi Yosef et Rabbi Hanina Me'acha. Mais Rabbi Yosef et Rabbi Hanina disaient qu'on apprend de là. C'est-à-dire que nous avons une nouvelle définition du Kovet Rosh. Le Kovet Rosh, c'est pas l'amertume, c'est autre chose. C'est quoi? Alors, on nous amène un verset de Tehilim. C'est fini avec ton truc. C'était soit le verre en plastique, soit le machin. Si tu veux, j'ai un stylo aussi, tu peux faire tic-clic. Là, voilà. Il y a ça. Hein? Il y a ça. Ouais, bon. Bon. Ah oui. Et là, Amar Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina, Me'acha. Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina apprenait ça d'ailleurs. Va'ani, Berov Hasdecha, quant à moi, lors de l'abondance de ta grâce, Avo Betecha, je viens dans ta maison. Eshtahave Elechal Kotchecha, je me prosternerai devant ton saint sanctuaire, Beir Atecha, en ayant la crainte de toi. Dans la crainte de toi. Beir Atecha. Donc, si c'est ça le verset qui nous apprend le Kovet Rosh, c'est quoi le Kovet Rosh? C'est la crainte. Iratecha. La crainte de Dieu, Irat Shamay. Oui, bon, c'est sympathique. Et ici, au moins, une définition. Donc, le Kovet Rosh, c'est la crainte. C'est-à-dire, je dois, avant la prière, développer le sentiment de crainte pour savoir que je suis devant le Kadosh Baruch Hu. Ah, est-ce que la crainte, c'est la peur?
Ben, la peur, mais c'est...
C'est pas la même chose. C'est pas toujours la peur. La crainte, par exemple, c'est pas parce que j'ai peur qu'il m'arrive du mal. La crainte, ça peut être quelque chose de révérencieux.
Un respect aussi.
Une sorte de respect, oui. Une crainte respectueuse. Ça peut être ça. Ou révérencieuse. Quelle est la différence entre révérencieux et respectueux? C'est la même chose. Hein? Bon. Oui, mais c'est pas ça qu'il dit. Le verset ne dit pas dès qu'on est heureux. Le verset dit qu'on est dans la crainte. Maintenant, il y a un petit problème. Comment? Quand tu trouveras, tu en parleras. Donc, il y a un petit problème. Essayons d'analyser le verset à nouveau. Va'ani, quant à moi, berov hasdecha. Lorsque tu abondes en bonté, berov hasdecha, lors de l'abondance de ta grâce, avo betecha, je viens dans ta maison, et je me prosterne dans la crainte. Il y a quelque chose d'illogique dans ce verset. Si c'est un moment où il y a abondance de bonté d'Akadosh Baruch Hu, Rov Hasdecha, c'est pas le moment de la crainte, c'est le moment de la joie. Qui, alors que le monde est dans la grâce, ressent quand même de la crainte? Oui, mais quel homme? Quel homme peut avoir de la crainte alors que c'est le moment de la bonté? Celui qui a quelque chose à se reprocher. C'est-à-dire celui qui a fait un péché. C'est-à-dire, il y a deux sortes de craintes. Il y a une crainte qui vient de la conscience, de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une crainte qui vient du fait que j'ai péché. Ah, la question est immédiate. Ça voudrait donc dire, si on prend au sérieux ce que dit Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina, que ne peut prier que celui qui a quelque chose à se reprocher.
On
ne
sait pas.
On peut savoir.
Moi, je n'ai rien à me reprocher. Demain, je me lève. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Je ne ferai pas de la
vente. Oui, c'est ça que ça veut dire. Oui, c'est ça qui est bizarre. Vous comprenez qu'il y a ce qui transparaît à travers ça, ça serait que l'expérience religieuse ne serait là que pour réparer le péché. pourrait fonder toute une religion sur la Bible, avec cette idée-là que toute l'expérience religieuse, tout le culte qui est rendu à Kadosh Baruch Hu, ne serait là que pour réparer les péchés de l'homme. Ça s'appelle le christianisme. C'est-à-dire, pour le chrétien, la relation à Dieu passe par ça. Il a de la chance, le chrétien, comme il y a le péché originel, il est de toute façon coupable, donc il a une raison de prier. Non. Non. Selon le judaïsme, on n'est pas coupable. Je ne suis pas né coupable. La faute du veau d'or, elle a été expiée, mais elle n'était pas obligatoire, on n'est pas obligé de faire la faute du veau d'or. On paye, d'accord, mais on n'est pas coupable. Il y a une différence entre payer et être coupable. C'est-à-dire, il y a le problème de savoir, est-ce que Dieu est un ennemi de l'homme ou non? Alors, pour le chrétien, la divinité s'adresse à l'homme comme envers un coupable. C'est-à-dire, ça vient du paganisme, en fait, cette idée-là. L'homme est coupable et les dieux lui en veulent. D'accord? Il y a une terreur, c'est un courroux de Dieu. Mais selon la Torah, ce n'est pas comme ça. Si on a péché, alors il y a une colère en haut. Akadosh Baruch Hu est contre moi. Mais si je n'ai pas péché, Akadosh Baruch Hu m'aime bien. C'est-à-dire, l'a priori n'est pas la culpabilité. Or, la prière, c'est quelque chose de permanent. Le péché, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Et donc, ça voudrait dire, si je prends au sérieux ce que dit Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina, ça voudrait dire que c'est seulement à travers l'expérience de la faute que je pourrais connaître Akadosh Baruch Hu. C'est intolérable dans une conscience juive, vous comprenez? Oui. Quoi encore?
Moi je suis né pas coupable, d'accord.
Comment?
Moi je suis né coupable de rien.
De rien.
De rien. Alors pourquoi je suis né en galoute?
Tu es né en galoute, pas parce que tu es fautif.
Comme ça.
Oui, c'est-à-dire tu es mal tombé. Non, c'est-à-dire tu es tombé. C'est-à-dire nous sommes dans un monde qui a été détérioré par nos ancêtres. Et donc on est là pour le réparer, mais on n'est pas coupable.
Adam Arishon,
il est responsable. Il a péché. Il nous a mis dans la mouise. D'accord? Et donc il faut en sortir. On est là pour réparer, pour nettoyer le monde qu'Adam Arishon a éclaboussé. D'accord? Ça ne veut pas dire que je suis coupable. C'est tout à fait juste. Chacun a son rôle. Alors par exemple, on m'a préposé au nettoyage des égouts du monde. D'accord? Le préposé aux égouts, il n'est pas coupable de quelque chose, il n'est pas puni, c'est son travail. D'accord? Oui?
Dans ce cas-là,
on ne paye pas. C'est un rôle. Chacun son rôle. C'est comme si, par exemple, vous disiez dans un hôpital, le médecin, c'est pas lui qui a fait du malade à un malade. Alors pourquoi est-ce qu'il doit le guérir? C'est son boulot. Ah oui, on paye, c'est-à-dire qu'on a un travail, on a une mission. La mission, c'est de réparer. Oui, ça. Oui. Vas-y. Oui. Ah. Oui, nous avons aussi nos gilgoulim à réparer. Mais le gilgoul, c'est pas une donnée obligatoire. Il y a également des neshamot radashot, ça existe aussi. C'est très rare, je suis d'accord. Mais ça veut dire que dans le principe, ce n'est pas la culpabilité qui est mon expérience fondamentale. Oui.
Mais moi, ce que je pensais, c'est qu'on va appliquer, on va dire, mais je suis content d'avoir fait, mais je ne suis pas content d'avoir fait. Peut-être que je suis un peu de crainte, peut-être que je sais que je ne suis pas parfait.
Oui. Oui, mais tu peux faire tes jouvas. Donc tu peux faire teshuva avant la prière. C'est-à-dire, pire que ça, si on n'a pas fait teshuva, il y a toutes les chances que la prière ne soit pas acceptée.
C'est pour ça que les martyrs, ils faisaient teshuva sur leurs erreurs.
Oui, mais dans ce cas-là, ils ne sont plus dans la crainte. À partir du moment où j'ai fait teshuva, il y a la joie. C'est fini. Ils ont peur de plus tard. Pourquoi avoir peur de plus tard? Il ne faut pas avoir peur de plus tard. Il faut être optimiste dans la vie. On sait qu'on est susceptible de pécher. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire. D'ailleurs, il y a un moyen de ne pas pécher. De décider de ne pas le faire. Non, 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 c'est très important. Il faut bien comprendre une chose. Il y a une expression en hébreu, « En davar ha'omed bifnei ha'ratzon ». Rien ne s'oppose à la volonté. C'est-à-dire, pécher ou ne pas pécher, c'est une question de décision. Rien d'autre. Nous sommes de chair et de sang. Qu'est-ce que c'est que de nous? Oui, c'est vrai, mais si nous sommes... Qu'est-ce que c'est que de nous? C'est vrai, mais nous avons le pouvoir de... Nous n'avons pas, disons, le pouvoir de décider les données que, auxquelles nous serons confrontés, mais nous pouvons relever le défi. Si, on sait si ce qu'on fait... Non, on sait si ce qu'on fait est juste ou non. Comment nous le savons? Par l'étude. Oui. Tant qu'on n'a pas fait d'étude, on n'est pas responsable. Et ça aussi. Si je ne sais pas qu'une chose est interdite, je ne suis pas responsable. Si je sais qu'elle est interdite, je peux tenir. Oui, mais tu n'es pas responsable, donc il n'y a pas de crainte. Si tu dis je ne sais pas, et que c'est vrai que tu ne sais pas, il n'y a pas de responsabilité. Oui.
C'est pas du fait que chacun est responsable de l'autre. Vous croyez que même si on a fait de péché, vous voyez que l'Israël a réalisé la
guerre. Et si Israël n'a pas fait de péché?
Non, mais ça c'est la nature de l'homme de faire des
choses. Non, c'est de la nature de l'homme d'être susceptible de l'enfer. Ce n'est pas une obligation que l'homme en fasse. On peut très bien ne pas pécher. Oui.
La Torah,
même
chaque t'a dit qu'il y a péché. Il y a 50 ans.
Ah bon? Quoi?
Quoi?
Oui, mais il a fait échouer. C'est-à-dire, même s'il a fait un péché, il a fait échouer après. Il ne faisait pas un péché tous les jours. Bon, alors donc il y a un problème. On ne peut pas prendre la crainte du péché comme étant le fondement de l'expérience religieuse. Voilà, c'est à peu près là que je... Bon, alors, essayons de voir. Mimaï, que dit la Guémara? Comment, d'où tu prends ça? Dilma David, peut-être que pour David, Chané, c'est différent. Dehava metzair nafshe berachmetuva, parce que lui, il se peinait beaucoup dans sa prière. Pourquoi il était très peiné? Parce que lui, il avait quelque chose à se reprocher. Par exemple, l'histoire de Bathsheba, de Uriah, etc. N'est-ce pas? C'est-à-dire, David avait des doutes quant à sa maculation. Immaculation, pardon. D'accord? Est-ce qu'il était pur ou pas pur? Il avait un doute. Mais ça, c'est parce qu'il avait quelque chose à se reprocher. Son cas n'est pas si simple. Mais donc, il faut trouver autre chose. Et là, Amar Rabbi Yoshua ben Lévi. Tu veux dire quelque chose? Et là, Amar Rabbi Yoshua ben Lévi. Mais Rabbi Yoshua ben Lévi disait qu'il faut trouver donc l'origine du Kovet Roche ailleurs. Me'acha, de là. Ishtahavu l'Hashem behadrat kodesh. Prosternez-vous devant Dieu dans la splendeur de la sainteté. Ah bon? C'est où ça, le Kovet Roche, là? La splendeur de la sainteté, c'est une expérience splendide, c'est esthétique. Non, non, regardez là. Non, il y a de suite. Altikre behadrat et la beherdat. Il ne faut pas lire dans la splendeur de. Il faut lire dans la terreur de. C'est-à-dire, il transforme le mot. Il écrit hadrat, mais en fait, il faut lire herdat. Ça ressemble à la critique biblique. Il y a une erreur du copiste. Et donc, ne lisez pas behadrat kodesh, il faut lire autrement, herdat kodesh. C'est vachement convaincant, n'est-ce pas? Hein? À mon avis, c'est pas convaincant. Simplement, il faut comprendre pourquoi il a dit ça. Comment? J'ai rien compris. La Guémara, il faut comprendre pourquoi la Guémara, elle fait ça. Pourquoi est-ce qu'on peut comprendre de cette manière-là? Hadrat, ça veut dire splendeur, ça veut pas dire tremblement. Hein? Oui, et tu acceptes comme ça, parce qu'on t'a dit que c'était une loi de la Torah orale, alors ça y est, tu acceptes. Non, c'est-à-dire que, ouais, tu acceptes l'autorité, c'est là, bon, tu es un très bon garçon. Mais le problème, c'est que j'aimerais comprendre pourquoi est-ce que la Guémara, elle dit ça. La Guémara, elle dit pas ça n'importe comment. Il y a des raisons à ça. D'abord, il faut bien comprendre que quand la Guémara dit « ne lis pas », ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire. Ça veut dire que le verset n'est pas applicable dans sa forme originelle pour nous. C'est-à-dire, ce qui était bon pour le roi David n'est pas bon pour nous. C'est-à-dire que le roi David, il se prosternait dans la splendeur. Chez lui, c'est sérieux. « Ishtahavu l'Hashem behadrat » Pas dans le tremblement. Mais d'où est-ce qu'il tirait ce sentiment de splendeur? Qu'est-ce qui fait que j'ai le sentiment de splendeur sacrée?
Les témoins.
D'où ça vient la splendeur? Oui, la splendeur. Quand on dit c'est splendide, d'où ça devient ça? Qu'est-ce qui est splendide? Mais c'est pas un cas de jeu.
Il...
quelque chose de beau.
Plus que ça.
Oui. Vous avez déjà vu quelque chose de splendide? Vous avez vu quelque chose de splendide, vous, dans la vie? Hein? Jamais? T'as jamais rien vu de splendide? Eretz Israël, c'est splendide. Les paysages. La nature, n'est-ce pas? On voit la nature. Le Niagara. Hein, d'accord? La tour Eiffel. Bon.
C'est pas la nature.
Non. Ouais. Mais enfin, on voit, c'est très beau, quoi. C'est, ça vous coupe le souffle. En fait, qu'est-ce qu'il nous dit le roi David? Quand vous voyez ces choses-là, eh bien, vous connaissez le créateur du monde. On voit le créateur à travers la splendeur de la créature. C'est sûr, ça? Est-ce que c'est sûr que quand on voit la splendeur du monde, on voit le créateur du monde? On voit le monde. C'est-à-dire, c'est une expérience qu'ont les païens, les idolâtres. Qu'est-ce qu'ils ont vu, les idolâtres? Ils ont vu la beauté du monde, ils en ont fait un dieu. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle du panthéisme aussi. Vous savez, le panthéisme, c'est une expérience que l'on a, disons, d'une rencontre avec le monde. Et dans cette rencontre avec le monde, eh ben, on est tellement épaté qu'on divinise le monde. Maintenant, le roi David, lui, il ne se trompait pas là-dessus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il connaissait Akadosh Baruch Hu, et comme il le connaissait, il le trouvait à travers la nature. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a souvent des gens qui vous disent « J'ai regardé le monde et j'ai découvert Dieu. Hein, » on entend souvent ce genre de discours. « J'ai vu le monde et j'ai découvert Dieu. » En fait, ce n'est pas vrai. Tu as entendu parler de Dieu, et tu as regardé le monde, et tu t'es dit, il est là-bas. Mais c'est parce que tu as entendu parler de lui. Mais dans l'expérience immédiate de la rencontre avec la nature, cette splendeur que je rencontre risque de me faire oublier le Créateur. D'ailleurs, la beauté, justement, on peut dire, à la place d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça que Rabbi Yehoshua ben Levi te dit, toi, tu ne vas pas lire ce qu'il y a écrit. Toi, tu vas lire Beherdat Kodesh. C'est-à-dire, c'est le tremblement qui te fera rencontrer le Créateur.
Parce que sinon, ce sera un avodah zara.
Exactement, ça risque de faire l'avodah zara. Comment est-ce qu'on fait pour trembler? On tremble parce qu'on est ébranlé. Quelque chose ne va pas selon l'ordre habituel. L'ordre a été bouleversé. Ah, s'il est bouleversé, c'est qu'il y a quelque chose au-delà. Ce quelque chose au-delà me fait trembler. Vous avez compris? Bon. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Rabbi Yehoshua ben Levi, il amène le verset Ishtachavu l'Hashem Batrat Kodesh, Altikre Behadrat et la Becherdat. Il ne faut pas lire dans la splendeur, mais dans le tremblement. Il y avait un goy du Danemark qui s'appelait Søren Kierkegaard. Vous avez entendu parler de Kierkegaard? Ah oui. Bon. Un philosophe existentialiste. Protestant. Un peu troublé, le pauvre. Et philosophe. Oui. Il a écrit un bouquin, La crainte et le tremblement. C'est un livre sur l'expérience religieuse. Ça rappelle un peu Rabbi Yehoshua ben Levi, n'est-ce pas? Mais ça, on retrouve souvent ça chez les protestants, effectivement. Cette rencontre avec le divin dans la crainte et le tremblement. Ils sont terrorisés. Il y avait un goy du nom de Rudolf Otto, qui a écrit un bouquin du nom de Das Heilige, le sacré, dans lequel il a cherché à comprendre qu'est-ce que c'est que l'expérience religieuse. Et il est arrivé à la conclusion que l'expérience religieuse, c'est ce que ressentent les juifs lors de la prière de Kol Nidré à l'ouverture de Kippour. Bon, c'est un peu énorme, parce que la prière de Kol Nidré n'est pas une prière, c'est un acte de tribunal, on abolit les vœux. Et puis, c'est un moment de la prière, et il y avait même certains poskim qui disaient de ne pas faire Kol Nidré. Et puis, toutes les prières n'ont pas l'air de ressembler à ça. Alors, mais lui, il a été très frappé par ça. Il a vu la prière de Kol Nidré, ça l'a fait quelque chose. N'est-ce pas? Un scientifique comme ça, il se promène avec la synagogue. Ah oui, très bien, j'ai vu la prière de Kol Nitré. Et c'est ça. Bon. Et donc, on va faire un doctorat là-dessus. Mais vous comprenez bien que cette idée de que la divinité, ça serait terrorisant, c'est pas très juif, ça. Et ça marche pas avec le couscous du vendredi soir. Alors, il y a autre chose. C'est ça que la Guémara n'est pas contente de cette réponse. Elle dit, Léolam, Mimaï, Dilma, qui t'a dit ça? Peut-être que Léolam, il faut prendre et Malachadrat Mamash, qu'il faut vraiment lire dans la splendeur. Que le verset n'est pas à transformer. Kiha de Rav Yehuda, comme nous avons vu chez Rav Yehuda, Dehava Metzayen Nafshe Vadar Matzle, qui se faisait beau et qui après faisait la prière. Rav Yehuda, quand il voulait faire la prière, il s'habillait bien, il se mettait en... C'était beau, quoi, c'est esthétique. Hein, il se peignait, ça, un peu de déodorant, ça. Eh bien, il faisait la prière. Donc, ça veut dire qu'il y a des tzadikim qui ont une connaissance d'Akadosh Baruch Hu à travers l'expérience esthétique. À travers la beauté. Et donc, c'est soit... Quoi? Peut-être qu'il y a des Mkoubalim qui font comme ça? Je sais pas, non, je sais pas. Mais ça dépend desquels. Mais en tout cas, c'est-à-dire que vous avez vu ici deux extrêmes. Soit le tremblement, comme chez Rabbi Yehoshua ben Lévi, soit la beauté, comme chez Rabbi Yehuda. Et en fait, si vous avez remarqué, ce sont deux extrêmes. C'est l'excès de la crainte, l'excès de la grâce. Et la Guémara ne peut pas admettre qu'une expérience de ce genre, qui est si particulière, soit l'expérience qui est celle de tout Israël. Donc elle réfute les quatre opinions qu'on a vues jusqu'à présent, aussi bien l'amertume que la crainte, donc la culpabilité, que le tremblement ou que la beauté. Alors c'est quoi la prière? C'est quoi le Kovod Rosh? Eh bien, nous sommes bien obligés, étant donné que le temps qui nous est imparti est fini, de repousser ça à la prochaine fois. Shalom.